Et pour cela, les pères seraient de plus en plus présents, aussi bien que les mères. On parle alors du vent du pantalon qui se lèverait sur le campus. Jusqu'il y a quelques années, l'éducation des enfants était l'affaire des mamans. Et certaines étaient assez zélées pour s'immiscer dans la vie scolaire de leurs enfants. Et on parlait alors du vent du jupon pour désigner leur intervention parfois excessive auprès des enseignants. En général, cela s'arrêtait au seuil de l'école primaire, mais il a tendance à se généraliser et à se prolonger à l'enseignement secondaire, voire supérieur. Et les mœurs ont commencé à changer. L'éducation n'est plus l'apanage des mamans, les pères s'y montrent aussi intéressés. Et ils aiment réagir pour s'assurer que leur progéniture soit bien prise en charge par l'université où il est admis. Lorsque l'occasion se présente, ils ne veulent surtout pas la rater. Par exemple, le 27 janvier dernier, l'université féminine d'Iwa a mis en place parallèlement deux programmes d'orientation, l'un destiné à ses nouvelles étudiants et l'autre à leurs parents. Pour le second, la salle de 750 places était pleinement remplie et les pères étaient plus nombreux que les mamans. Pourtant, c'était un jour en semaine et à la fin de la séance, le président de l'université a tenu à répondre en personne aux questions des parents. 70% des questions étaient posées par des pairs et l'université a proposé d'envoyer régulièrement ses lettres d'information en version numérique aux parents s'ils le souhaitent. Sur la liste des emails reçus, elle a remarqué beaucoup de domaines de grandes entreprises comme @samsung.com ou bien @ibm.com. Et à la rentrée, certains pairs n'ont pas hésité à appeler le secrétariat pour en savoir plus. Les Sud-Coréens avaient l'habitude de dire une plaisanterie qui se moquait bien d'une réalité. Mais sur le concours d'entrée à l'université, trois conditions seraient requises. Les moyens financiers du grand-père, la capacité de renseignement de la mère et l'indifférence du père. Or, une telle époque semble révolue. On parle désormais du vent du pantalon pour décrire une influence plus importante que les pères sont prêts à exercer sur la vie universitaire de leurs enfants. L'université féminine Iwa a bien compris l'ampleur d'un tel phénomène. Elle envisage d'organiser de début mai une Iwa Father's Day, une journée réservée aux pères de leurs étudiantes en première année, ce qui sera une première depuis son ouverture en 1886. Environ 150 pères seront invités à faire une randonnée main dans la main avec leurs filles dans la montagne Muak à Séoul, non loin de l'université. Le président, le vice-président et quelques professeurs de l'université les accompagneront lors de cette sortie en plein air et se rendront disponibles pour répondre à leurs questions. Par ailleurs, l'université féminine Iwa n'est pas la seule à prendre une telle initiative. D'autres ont mis en place des programmes similaires. Ainsi, le vent du pantalon se lèverait plus fort sur les campus universitaires. Où achetez-vous vos livres? Dans une librairie ou sur Internet? Et pourquoi ne pas aller à la bibliothèque? Eh oui, à la bibliothèque. C'est quelque chose qui bouscule les idées reçues. Et la Bibliothèque nationale de Corée l'a bel et bien traduit en acte. Vendredi dernier, une librairie de proximité y a ouvert ses portes au rez-de-chaussée sur une superficie de 46 mètres carrés avec 2000 livres. C'est le ministère de la Culture qui est à l'origine de ce projet pilote pour le généraliser ultérieurement dans les bibliothèques publiques. Tout a commencé à partir d'un constat simple. Le pays compte 1625 librairies entièrement dédiées à leur vocation d'origine, c'est-à-dire à l'exception de celles qui cumulent les activités de papeterie ou de supérette. Il totalise 1262 bibliothèques composées de 877 bibliothèques nationales et publiques, ainsi que de 385 privées. Dans les chiffres, la différence n'était pas si importante. Voilà donc l'idée d'accueillir dans ces bibliothèques des librairies de quartier qui ont du mal à s'en sortir pour faire face à la concurrence rude des grandes chaînes ou des sites internet. En plus, le loyer est modéré dans les établissements publics.
L'Européen, Georges Pompidou à Paris, on a Narcisse qui nous appelle de Libreville au Gabon. Narcisse, bonjour.
Mais cela pourrait-il vraiment marcher?
Eh bien, bonjour, madame.
On vous écoute, Narcisse.
Qui viennent pour lire sur place ou pour emprunter.
Oui, moi, mon cas est
question de revenir.
Donc, en 2002, j'avais été opéré d'une cataracte à l'œil gauche.
Le week-end, souvent,
et pour effectivement, j'ai perdu l'œil vers les années 2000. L'œil gauche, là. Alors, tout récemment,
de lecture et bien
j'étais allé à l'hôpital, c'est-à-dire en novembre 2013, parce que ma vue baissait.
On a parfois.
Donc, on m'a passé une ordonnance de lecture. Une nouvelle lunette, quoi. Un nouveau verre que j'ai acquis en février 2014.
Pour tout premier magasin, elle a dit...
En mai 2014, j'ai constaté que la vue baissait de nouveau et je suis retourné en consultation en octobre 2014
âgé de 60
dans une clinique à une gâtonnée de Tabi vers le 1er octobre, disons le 1er octobre. Le médecin que j'ai vu m'a dit que l'œil qui était pétitien contaminait l'œil droit. C'est pour cela que m'arrive le stress. De supprimer l'œil gauche et de remplacer par une prothèse. Le coût de l'opération, c'était exceptionnel. 1 million et 500 francs.
Pour quelques
années, cette solution trop chère. On a vu. Donc, deux semaines après, je suis arrivé dans une autre clinique. C'était mieux équipé. Et c'est là que l'ophtalmologue a découvert un glaucome sévère.
Juste vous interrompre, Narcisse, je vous interromps. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les deux précédents salons n'avaient pas vu que vous aviez un glaucome, parce qu'a priori, il avait démarré avant.
Et il ne l'avait pas vu, il avait démarré avant, il ne l'avait pas découvert. Comment est-ce que les gens n'arrivent pas à découvrir?
Et pourtant, vous avez fait un fond de l'œil à chaque fois?
J'ai compris,
tout au contraire.
J'ai compris que c'était une maladie.
Et quelle est votre question, du coup, aujourd'hui?
La question, c'est de savoir, je suis en traitement là depuis bientôt 6 mois, c'est-à-dire j'ai d'abord pris
une nouvelle
Diamox.
Alors, quelle est sa recette?
Diamox, c'était un comprimé.
Tout nouveau conseil.
Ensuite, du carbéol, puis de l'alatane.
Une fois la pendant.
Alors, depuis 2 semaines, l'ophtalmologue qui me traite m'a changé de traitement, c'est-à-dire j'étais actuellement sur le carbéol toujours.
Devant de l'alatane.
N'est-ce pas recoller au soir
savoir le tout
et puis au plus garde qui est pas une vitamine
le check mais
ce traitement que je viens de commencer va durer 3 mois.
La boisson alcoolisée.
Ma question c'était de savoir bon, mon nerf optique est atteint au deux tiers il faut dire au deux tiers déjà. C'est de savoir si au bout de 3 mois d'espacement, je pourrais avoir une
conférence,
intervention chirurgicale pour remettre ma vision.
C'est qu'il est possible
d'avoir une vision quoi.
Alors, docteur Christophe Ourso, effectivement, on a parlé jusqu'à maintenant des traitements médicamenteux, mais il y a aussi des traitements chirurgicaux.
Alors, il y a aussi des traitements chirurgicaux et des traitements laser. Les traitements chirurgicaux consistent en fait à faire un petit volet par du liquide qu'il y a dans l'œil l'humeur aqueuse va pouvoir s'évacuer, ce qui permet de diminuer la pression intraoculaire. Ce sont des opérations qui sont bien codifiées, qui sont faciles à réaliser, qui marchent bien, que les ophtalmologistes connaissent bien, qui ont des indications qui sont variables suivant les habitudes des différentes équipes dédiées dans les différents pays et dont la place est variable dans la progression de la maladie. C'est sûr qu'en France, on a tendance à les utiliser quand les traitements médicamenteux sont devenus inefficaces et où qu'on ne peut pas faire, on n'a pas envie de faire des traitements laser qui sont souvent moins définitifs. L'opération est quelque chose qui va permettre d'équilibrer là encore le glaucome, d'arrêter tous les...
bureau, on reçoit des coups de fil de clients qui ressemblent à cela. J'aimerais l'offrir à ma copine. Quelle couleur pourrait lui plaire? Pour sortir, je porte souvent un sac pochette, alors quelle taille conviendrait pour le mettre dedans? Ils n'ont pas appelé un magasin de vêtements ni d'accessoires de mode. Ils se sont adressés à la maison d'édition Artichoke, toute jeune, qui a ouvert ses portes il y a un an. Chez elle, le livre est soigneusement désigné et habillé. Ainsi, Artichoke a publié l'année dernière un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe, intitulé « Rêve dans un rêve » sous trois formats différents. Un format de poche, aussi petit qu'un smartphone, un format courant, aussi grand qu'un DVD, et un large de la taille d'une tablette PC. Son design est plus stylé et son poids est réduit de 40% par rapport à celui d'autres livres de la même taille, cela grâce à l'utilisation de papier plus fin. Et récemment, Artichoke a publié le recueil de poèmes de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, sous trois couvertures différentes, après avoir consulté un directeur artistique américain. Les lecteurs ont le choix parmi Destruction de Carlos Schwab, Poisson d'or de Gustav Klimt et Innocence de Lovis Corinth. Et le livre est emballé sous un plastique, tout comme un nouveau vêtement. Ces ouvrages sont notamment prisés par des jeunes lectrices. Certaines disent avoir tout acheté pour varier les versions et mieux les assortir à leur code vestimentaire du jour. Leur premier tirage a été épuisé et le deuxième est sous presse. Une autre idée originale, la maison d'édition nommée Imagine le millénaire, Chunnyon et Sangsang, a édité un livre intitulé Verser de l'huile sur la passion, dont la couverture est colorée d'une matière fluorescente. La nuit, lorsqu'on éteint la lumière après la lecture, une montgolfière s'illumine sur la couverture. En fait, le livre contient des histoires innovantes relatées par de jeunes auteurs qui ont entre 20 et 29 ans, initialement postées sur Facebook. Selon l'éditeur, il fallait marquer l'esprit avec quelque chose de novateur, même dans le livre en tant qu'objet. Ces ouvrages armés d'une idée originale tirent bien leur épingle du jeu alors que le marché de l'édition traverse une période difficile. À Séoul, dans le quartier de Sotcheon, qui se trouve près du palais royal Gyeongbok, une quinquagénaire surnommée peintre sur toit s'est faite un nom ces derniers temps. Elle a même renoncé à sa belle carrière pour se consacrer entièrement à la peinture. Chaque jour, Madame Kim Mi-gyeong s'équipe de son matériel de peinture et elle prend le même chemin, celui qui mène sur un des toits. Là-haut, elle peint le paysage du village Sotcheon, où coexistent les maisons traditionnelles et les pavillons occidentaux. La vue panoramique sur la montagne Inwang, l'air frais, la brise, le soleil et les oiseaux qui chantent. Kim se dit inondée et bénie par cette énergie qu'il verse généreusement. Elle a peint presque une centaine de tableaux pendant 2 ans et demi. Il faut dire qu'elle n'était pas peintre de formation ni de métier. Ainsi, elle se présente comme une peintre sans licence. Elle a travaillé comme journaliste pendant 20 ans et après un passage à New York, elle a occupé un poste de secrétaire général dans une ONG. Un jour, elle a décidé de ne penser qu'à sa seule passion cachée et pour cela, elle s'est résolue à mener une vie modeste, une vie entièrement consacrée à la peinture. Il y a quelque temps, Kim Mi-gyeong a eu l'honneur de donner sa première exposition à Sotcheon. Elle y a présenté une quarantaine d'œuvres dessinées au crayon, et ses tableaux en miniature se sont vendus comme des petits pains. Il respirait la vie et représentait bien le paysage du village. Certains tableaux ont fait l'objet d'une compétition inattendue. C'était des habitants du quartier qui voulaient se procurer le tableau qui a immortalisé leur maison. Une femme y tenait aussi puisque c'est dans celle-ci qu'elle a accouché de sa première fille. Alors si vous avez l'occasion de vous promener à Sotcheon un jour ensoleillé, n'oubliez pas de lever les yeux, vous trouverez probablement la peintre sur toi. Busan, la plus grande ville portuaire située dans le sud-est du pays, un quartier escarpé se démarque bien du paysage. De petites maisons s'y sont perchées les unes contre les autres. Et c'est le quartier de Chuliang de l'arrondissement Tongu. Et la zone dite Chuliang a 168 marches d'escalier et la plus célèbre. Il est difficile de gravir cette zone, mais une fois montée, elle réserve une vue imprenable sur la mer et sur le quartier bien atypique. Mais cette célébrité n'arrangeait rien à la vie des habitants du quartier dont la population vieillissait au fil des années. Alors la mairie de l'arrondissement Tongvou a décidé d'installer un monorail dans la zone Zhuliang à 168 marches d'escalier, comme le funiculaire de Montmartre à Paris qui relie le bas de la butte Montmartre. La ligne sera longue de 60 mètres et installée sur une pente penchée de 30 degrés. Comme les 168 marches de l'escalier sont très étroites, il sera question de mettre en place des piliers au-dessus. Et le train devrait marquer l'arrêt au milieu de la ligne entre les deux stations d'en haut et d'en bas. Ainsi, la mairie espère faire d'une pierre deux coups. D'une part, le nouveau monorail aidera les habitants d'en haut à se déplacer confortablement. D'autre part, il facilitera l'accès des visiteurs à ce quartier de sorte que cette zone devienne un nouveau site touristique incontournable. Les touristes pourront apprécier la belle vue sur le port maritime. Et la mairie a décidé d'acquérir 4 maisons près de la zone Choliang à 168 marches d'escalier et de les transformer en un espace de culture et d'exposition où les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la vie des années 1950 jusqu'à 70. La construction du monorail devrait s'achever en août prochain.
Découvrez tous les mardis la gastronomie coréenne et les spécialités culinaires du pays du matin clair. Alors, pour faire voyager vos papilles, laissez-vous guider par Wang Ryang dans Saveurs du terroir.
L'hiver laisse sa place au printemps partout dans la péninsule coréenne. Le col de Daegwalyang, culminant à 832 mètres d'altitude dans la province de Gangwon, située à l'extrême nord-est du pays, reste encore très froid. Saveur du terroir vous emmène dans cette région cette semaine et la semaine prochaine afin de vous faire découvrir les plats que les habitants y préparaient traditionnellement malgré leur terre infertile. Notre destination de cette semaine est le village Daegwalyang. S'il fait partie de Yongpyeongyeon selon la répartition des zones administratives actuelles, dans le passé, il faisait partie de Yongpyeong, traditionnellement reconnu pour son sarrasin. Ainsi, les habitants de ce village profitaient de ce blé noir pour préparer divers mets, parmi lesquels le mémil makgukso est considéré comme le principal délice d'hiver. On prépare la pâte à base de sarrasin, puis on obtient des noix. On les cuit dans l'eau bouillante, puis on les lave dans l'eau froide afin de garder la texture bien ferme sous la dent. Selon sa préférence, on peut choisir entre le bouillon chaud à base de viande de poulet ou le bouillon froid à base de thon timi, qui multifroid à l'eau de radis blanc. Comme garniture, on ajoute le krat kimchi, le kimchi fait à partir du légume épicé krat, délicieusement assaisonné. Qui poussait facilement malgré les conditions naturelles défavorables constituait un des ingrédients principaux de la région. Même le reste de sarrasin moulu, appelé mémil mugori, n'a jamais été jeté. En y mélangeant divers légumes, on préparait des galettes pudeok-jeok. Et il y a également le dakjigak que l'on apprécie comme mer. On hache le poulet entier, y compris les os. Puis on y ajoute des légumes coupés en petits morceaux et la poudre de maïs pour en faire la pâte. On enfonce des morceaux de galettes avant de les cuire à la vapeur. Une petite particularité, c'est qu'on met de l'eau dans une grande marmite, puis on étale suffisamment de paille sèche avant de déposer les galettes dessus. Selon les habitants, la paille jouerait le rôle d'antiseptique et éviterait à l'eau de bouillir. La province de Gangwon est également reconnue pour ses pommes de terre de qualité. Mais pourriez-vous imaginer que ces tubercules comestibles gelés peuvent aussi être utilisées pour préparer des mets. Lors de la récolte, les habitants d'ici font exprès de les laisser dehors au froid pour les manger en plein hiver. Tout d'abord, on les cuit simplement dans le foyer pour apprécier le goût croquant de la patate gelée. En général, les pommes de terre gelées sont utilisées pour faire des pains. On trempe longuement dans l'eau les patates épluchées coupées en deux pour enlever le goût amer. Puis on en couvre avec de la poudre de farine en ajoutant du sel avant de les cuire à la vapeur. Ce n'est pas du vrai torf, la pâte est cuite à la vapeur bien ferme sous la dent, mais on a l'habitude de les appeler torf parce qu'elles ont une forme ronde et sont cuites à la vapeur. Il y a aussi les kramingas en pion. On prépare la pâte à base de pommes de terre, puis la farcie avec de la pâte de haricots rouges ou du kimchi, ce fameux chou pimenté fermenté, avant de les cuire à la vapeur. On nous conseille de les manger quand ils sont bien chauds. Notre voyage à Taïwan se poursuit la semaine prochaine.
Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yoon-ji à la rédaction, Franck Leroy au micro et Yunomi à la réalisation. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce petit cours de coréen. Oui, Hago, Taichi, Isoyo, nous sommes ensemble avec Louis.
Mais, annyeonghaseyo, je vois que tu as utilisé la particule Hago que nous avons vue hier dans l'extrait de cette semaine. Mais j'ai appris dans mon cours de coréen que pour dire avec, on utilisait quoi ou quoi.
Ah oui, tu as tout à fait raison, c'est en effet une autre manière de dire et ou avec. J'aurais donc pu dire Louis, wa, Taichi, Isoyo. Et peux-tu nous dire, par exemple, la montagne et la mer.
Sangwa pada.
Sangwa pada. Et inversement,
padawa
san. Bravo, padawa san. La montagne se dit san, et comme cela se termine par la consonne nion, on ajoute kwa. Et dans le cas de mer qui se dit pada, on dira padawa.
Et on pourrait également dire san hago pada.
Oui, tout comme pada, hago, san, la particule hago dans ce cas ne se modifie pas en fonction de la terminaison du nom qui la précède. Donc, souvenez-vous que pour dire avec et, on peut utiliser les particules hago ou wa, wa.
Sodong-san-hago, 결혼하고 싶어요.
뭐야?
Sodong-san-hago, 결혼하고 싶다고요.
Nous retrouvons dans cette scène la jeune Kang Hena et son grand-père Kang Man-ho, le président du groupe Kangsan. On sait maintenant qu'il n'a pas pu se faire opérer car sa maladie a trop progressé, mais il veut garder toute son énergie pour pouvoir transmettre les rênes de son groupe à sa petite-fille et aussi qu'elle se marie au plus vite avec l'avocat Ikeo.
Oui, mais ce n'est pas avec lui qu'elle envisage de se marier.
Exact. D'ailleurs, écoutons ce qu'elle dit à son grand-père.
Sodong-san-hago, 결혼하고 싶어요.
Sodong-san-hago, 결혼하고 싶어요. Je veux me marier avec Sodong-chan. Elle aussi souhaite certainement accélérer le mariage.
Sûrement, mais pas dans le sens qu'il voudrait.
En effet. Alors, on a vu hier le début de la phrase Sodong-chan-hago, que l'on a traduit par avec Sodong-chan. Voyons la suite. 결혼하고 싶어요. Je veux me marier.
결혼하고 싶어요.
Ah bon? Alors, on a ici le verbe 결혼하다 qui veut dire se marier. 결혼 étant le nom commun pour mariage. Et on a une forme que l'on utilise très souvent en coréen qui se traduit par avoir envie de vouloir. 싶다 est un verbe auxiliaire de souhait. La construction est simple. On ajoute au radical du verbe pro plus shipta que l'on conjugue. Alors, comment dirais-tu par exemple, oui, je voudrais manger.
Hap moko shipoyo.
Hap moko shipoyo, c'est ça. Tu as bien pris le radical du verbe manger qui est mok auquel tu as rajouté ko plus shipta conjugué en rajoutant la voyelle o devant le yo de politesse moko shipoyo. J'ai envie d'y aller, se dira donc
kago shipoyo.
Exactement, kago shipoyo ou plus familièrement kago shipo. Donc, Kena veut se marier avec Sodong-chan. Écoutons à présent la réaction de son grand-père.
Boya,
boya, quoi? Où on comprend sa surprise et en même temps sa désapprobation.
Il n'a pas l'air en effet d'être très content de ce qu'il vient d'entendre.
Alors, ce mot est une contraction de muo ou muote qui est un pronom interrogatif qui veut dire quoi? Que. Qu'est-ce que tu as mangé pourra se dire
moi mogoso.
Exactement, mogoso. Retenez que mot veut dire quoi et que c'est une forme contractée très utilisée à l'oral. Allez, nous continuerons demain et avant de nous quitter, écoutons à nouveau l'extrait en entier. Bonne soirée à tous et on se retrouve demain pour la suite.
Ayoi Keseo.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur KBS World Radio dans votre émission 70 ans d'histoire. C'est pour célébrer le 70e anniversaire de l'indépendance de la Corée que nous allons chaque semaine, à travers divers événements, découvrir les étapes de développement du pays depuis le 15 août 1945. Après avoir parlé de culture et plus particulièrement de l'âge d'or du cinéma coréen, nous allons découvrir ces enfants du baby boom qui ont joué un rôle majeur dans l'industrialisation du pays. Au milieu des années 50, au sortir de la guerre de Corée, la Corée du Sud retrouvait doucement un peu de stabilité. Mais c'est alors que le pays se retrouva face à un sérieux problème social. Quelques 7,12 millions de bébés sont nés entre 1955 et 1963, créant une nouvelle génération baptisée celle des enfants du baby boom. La population sud-coréenne explosait avec l'arrivée en plus de réfugiés de Corée du Nord et de tous ceux qui vivaient à l'étranger et qui revinrent au pays. Le pouvoir croyait qu'une croissance aussi rapide de la population allait nuire au développement économique du pays. C'est pour cela qu'un planning familial fut intégré au premier plan quinquennal de développement économique et que les naissances étaient fortes.